France Culture.
Et c'est l'heure du journal de la rédaction qui vous est présenté aujourd'hui par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. La guerre commerciale s'intensifie entre l'Union européenne et la Chine. Pékin impose de lourdes taxes sur le cognac et l'armagnac. Quelques producteurs français parviennent toutefois à y échapper. Nous serons avec Sébastien Berriot au début de ce journal. La Russie devient le premier pays à reconnaître officiellement le pouvoir taliban en Afghanistan. Analyse à suivre de Valérie Krova. Reportage à Tel Aviv avec des maires de soldats israéliens qui demandent l'arrêt de la guerre avec le Hamas. Le mouvement palestinien doit se prononcer d'ici ce soir sur une proposition américaine de cesser le feu dans la bande de Gaza.
En France, de nouveaux chiffres confirment l'essoufflement des politiques climatiques.
Après le Haut Conseil pour le climat hier, le CITEPA, mandaté par l'État pour dresser le bilan carbone national, prévoit un nouveau ralentissement dans le rythme de baisse des émissions de CO2. Véronique Roberotte sera en direct. Dans le quartier de la Défense à Paris, des salariés de la Société Générale mobilisés contre le projet de leur direction de réduire les jours de télétravail. Reportage de Julien Groard dans un instant. Et puis, avec Flore Caron, nous reviendrons sur les enjeux des états généraux de la lecture pour la jeunesse, lancés hier. L'Union européenne a dit regretter ce matin la décision de la Chine, Pékin, qui a décidé d'imposer des droits de douane sur les eaux de vie de vins européennes, ce qui concerne principalement les producteurs de cognac et d'armagnac, et donc la France. Les produits seront taxés à hauteur de 35%, ce qui devrait sérieusement pénaliser ces producteurs. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Pékin. Certains producteurs ont toutefois réussi à échapper sous condition à ces droits de douane.
Oui, effectivement, c'est ça. Certains producteurs, mais pas tous, ceux qui accepteront de faire des efforts sur les prix ne seront pas soumis aux droits de douane. En clair, les producteurs de cognac ne seront plus libres de fixer leurs tarifs sur le marché chinois. C'est mieux qu'une taxe, évidemment, mais cet accord va tout de même limiter les recettes des professionnels du cognac. Et pour les autres producteurs, qui eux n'auront pas conclu d'accord avec la Chine, là, les résultats de l'enquête anti-dumping s'appliquent de manière pleine et entière, avec des droits de douane, donc jusqu'à 35%, et ce pour une durée de 5 ans. C'est un sérieux camouflé pour les autorités françaises qui, ces derniers mois, n'ont pas ménagé leurs efforts pour essayer de faire pression sur la Chine. Il y a quelques jours encore, en visite à Shanghai, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, disait espérer la levée des sanctions. Les droits de douane visent officiellement les brandies européen, mais c'est évidemment la France qui est particulièrement visée avec son cognac et son armagnac, comme si les Chinois n'avaient toujours pas digéré que la France soutienne l'an passé les nouveaux droits de douane européens sur les importations de voitures électriques chinoises.
Sébastien Berriot, le correspondant permanent de France Culture à Pékin. C'est le premier pays à reconnaître officiellement l'Émirat islamique, le gouvernement instauré par les talibans en Afghanistan. Malgré les multiples restrictions imposées aux femmes par les fondamentalistes, la Russie a franchi le pas. Une décision qualifiée de courageuse par Kaboul et saluée par Pékin. Valérie Krova.
Moscou n'a jamais coupé les ponts avec les talibans. La Russie a été l'un des rares pays à ne pas avoir fermé son ambassade en Afghanistan en 2021, quand les fondamentalistes sont revenus triomphalement au pouvoir. Elle a également été le premier pays à signer un accord avec les talibans en 2022, ce qui lui permettait de fournir du pétrole, du gaz et du blé à l'Afghanistan. Enfin, les talibans ont été retirés de la liste russe des organisations terroristes l'an dernier, Vladimir Poutine allant jusqu'à considérer les talibans comme des alliés dans la lutte contre le terrorisme. Oubliez donc l'invasion soviétique de 1979 et le piteux retrait des soldats russes 9 ans plus tard. L'heure est aujourd'hui à une coopération productive selon le ministère russe des Affaires étrangères qui énumère les domaines où la Russie compte investir en premier lieu l'énergie. Très convoitée pour ses ressources naturelles que 4 décennies de guerre n'ont pas permis d'exploiter, l'Afghanistan dispose d'importantes réserves en gaz et en pétrole.
Valérie Krova, la Russie a intensifié son utilisation d'armes chimiques en Ukraine, information rendue publique ce matin par les services de renseignement allemands et néerlandais. Des preuves de l'extension de l'arsenal chimique russe ont été recueillies. La Russie utilise notamment en Ukraine la chloropicrine, qui peut être mortelle en cas de grande concentration dans des espaces clos. L'Ukraine, qui a par ailleurs été visée par un nombre record de drones russes. La nuit dernière, il y a au moins 23 blessés. Hier soir, le président Trump a reconnu n'avoir fait aucun progrès pour mettre fin à cette guerre. Il doit s'entretenir ce soir avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Y aura-t-il en revanche un cessez-le-feu bientôt dans la bande de Gaza? Le Hamas doit donner sa réponse sur une proposition finale dans les 24 heures. Hier, le président américain a affirmé qu'Israël avait accepté les conditions nécessaires à la conclusion d'un cessez-le-feu de 60 jours avec le mouvement palestinien. Le Hamas, qui cherche actuellement à obtenir des garanties pour que le cessez-le-feu conduise bien à la fin de la guerre, alors que l'armée israélienne tue des dizaines de personnes par jour dans l'enclave. Un débat dont s'emparent de nouveau les Israéliens après 3 semaines d'interdiction de rassemblement à cause de la guerre contre l'Iran. À Tel Aviv, une foule immense se rend régulièrement sur la place des otages et devant le ministère israélien de la Défense pour demander l'arrêt de la guerre. Écoutez ces témoignages de mères de soldats recueillis par Erwan Chassin.
Un soldat vient de mourir dans la ville où vit Elisabeth, présente à la manifestation. Ce n'était pas son fils, réserviste. Dans quelques jours, lui sera à Gaza.
Ce que je vois au travers de ses yeux et dans nos discussions, c'est son regard sur la destruction qu'il y a autour de lui. Il y a la tristesse qui apparaît dans son visage et il y a le conflit intérieur, quoi.
Car elle et son fils ne comprennent plus cette guerre et se sentent dupés par le gouvernement.
Risquer sa vie, non pas pour défendre l'État, mais pour défendre des positions politiques. Mon fils ne veut pas, je ne veux pas de ça pour lui non plus. Ces questions-là le percutent à tous les niveaux. J'ai aussi une culpabilité par rapport à ce que ce pays lui impose, ce pays que moi j'ai choisi, ou là j'ai choisi de le faire grandir. Stop cette guerre, il n'y a rien de bon à en tirer. Et pour que les soldats meurent, ou pour que les soldats fassent des choses immorales, quoi.
Ce soir-là, ils sont plusieurs milliers rassemblés devant le ministère de la Défense pour demander, entre autres, l'arrêt des combats à Gaza. Parmi eux, d'autres maires qui brandissent des portraits d'otages et des pancartes. La guerre qui était évidente après le 7 octobre 2023 ne l'est plus.
Au départ, c'était tout à fait normal pour moi que mon fils se batte.
Aviva est mère d'un soldat qui, lui, y croit encore.
Il voit tout à fait son but de défendre son pays. C'est beaucoup plus compliqué pour moi de savoir que mon fils est en danger quand je n'ai pas confiance aux décisions de mon gouvernement.
Aviva dit s'en remettre désormais à Dieu pour protéger son fils et pour lui ouvrir les yeux.
Le reportage d'Erwan Chassin avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Après le Haut Conseil pour le climat qui a appelé hier le gouvernement à un sursaut collectif pour relancer l'action climatique, des chiffres dévoilés par le CITEPA, une association qui évalue l'impact des activités humaines sur le climat et la pollution atmosphérique, épingle également aujourd'hui l'État français au sujet de la décarbonation. Véronique Rebérode, bonjour.
Bonjour.
Les chiffres ne sont pas bons. La France semble avoir perdu son élan.
Oui, panne sèche, fin de la dynamique observée depuis quelques années, après avoir déjà marqué sérieusement le pas en 2024, la baisse des émissions de gaz à effet de serre devrait à nouveau ralentir en 2025 avec une baisse estimée à seulement 0,8% sur l'ensemble de l'année. Si cette dégradation venait à se confirmer, un tel rythme de baisse serait très insuffisant pour tenir nos objectifs climatiques, car la France doit réduire ses émissions de 5% par an jusqu'en 2030 pour espérer bien tenir ses engagements, moins 55% de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 1990. Ce n'est pas les bouchées doubles qu'il faut mettre, mais les triples bouchées doubles pour tenir l'objectif de 2030. Eh bien, il faut multiplier le rythme de baisse d'émissions par 6. À un moment, il va falloir s'attaquer à des secteurs difficiles ou coûteux à décarboner. Les transports lourds, camions ou avions, les industries comme le ciment ou l'acier, on entre vraiment dans le dur. Hier, vous l'avez dit, le Haut Conseil pour le climat expliquait les mauvais chiffres de la France par notamment les reculs successifs du gouvernement sur de nombreuses mesures écologiques dans le bâtiment, les transports ou encore l'agriculture. Semblant s'exonérer de ces mauvais chiffres, la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, les explique par, je cite, la confusion du discours politique, les reculades, les propos irresponsables et populistes de certains sur la transition écologique. Le réseau Action Climat trouve de son côté ahurissant que 10 ans après l'accord de Paris sur le climat, la France en soit encore là. Pas une fatalité, mais bien des reculs incessants du gouvernement et des choix politiques qui vont à l'encontre de la volonté de la population française commente l'ONG.
Les explications de Véronique Rebeyrotte. Après le Covid et la généralisation du télétravail, de plus en plus d'entreprises souhaitent faire machine arrière. Aujourd'hui, par exemple, la direction de la Société Générale rencontre les syndicats du groupe pour en discuter. La Société Générale souhaiterait ainsi limiter à un jour maximum par semaine le télétravail contre 2 à 3 aujourd'hui. Mais les salariés considèrent qu'il s'agit d'un nouveau droit social. Déjà en grève vendredi dernier, les syndicats ont lancé hier l'opération Tous sur site pour prouver aux dirigeants l'impossibilité logistique de faire revenir tous les salariés sur le site. Le reportage de Julien Grohard au pied de la tour de la Société Générale dans le quartier de la Défense à Paris.
Ruban vert et tract à la main, Nabil Bouachi intercepte dans le hall d'entrée ses collègues de la Société Générale.
Bonjour monsieur, un ruban pour marquer votre solidarité au télétravail.
Avec l'intersyndical, le militant CFDT dénonce la réduction du télétravail voulu par la direction, qui justifie cette décision par une volonté d'harmoniser les pratiques au travail et d'améliorer la performance des salariés.
On nous annonce de manière brutale un retour en arrière, alors qu'aucune étude ne permet de le justifier.
La Société Générale sort en effet d'une année 2024 record. Son bénéfice net a augmenté de 69% sur un an. 35 000 employés font régulièrement usage des 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Et c'est pourquoi Julie, habitante du Val-d'Oise, a accepté de venir travailler à Paris il y a 4 ans.
J'étais à côté de chez moi. Et dans le cadre de la mobilité, on m'a dit que pour ma carrière, c'était bien de venir à La Défense ou à Val-de-Fontenay. Et donc du coup, j'ai dit d'accord, sous réserve que j'ai du télétravail. En tant que jeune maman, c'était essentiel. L'organisation, notamment avec les enfants, pour aller les chercher, pour aller les emmener, enfin, tout ça bouscule toute une vie.
Les salariés craignent également le manque de place, car la Société Générale a réduit le nombre de bureaux depuis 2021. Karine travaille au département des risques, elle redoute une stratégie visant à provoquer des départs volontaires.
La question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas une manière de faire partir des gens naturellement ? Je verrai, surprise.
Un argument que réfute la Société Générale, qui met en avant le présentiel pour renforcer les interactions et la culture d'entreprise.
Reportage signé Julien Grohard. Le groupe Air France KLM entame un processus destiné à prendre une participation majoritaire au capital de la compagnie aérienne scandinave SAS, entreprise avec laquelle le groupe franco-néerlandais avait scellé l'an dernier un accord de coopération commerciale. 85,75%, c'est le taux de réussite provisoire du baccalauréat avant les rattrapages, un taux stable par rapport à l'an passé, selon la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. La ministre de l'Éducation qui souhaite reconquérir le temps de lecture des enfants. Avec son homologue de la culture, Rachida Dati, elle a lancé hier les états généraux de la lecture pour la jeunesse à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Il y a urgence, selon les ministres. Le temps de lecture des moins de 25 ans est en effet de plus en plus court, 3h40 par semaine, 10 fois moins long que le temps passé devant les écrans, selon le Centre National du Livre. Les états généraux visent donc à identifier les freins à la lecture des jeunes et même des tout petits, Flore Caron.
Il y aura des auditions d'experts, des échanges avec les jeunes, avec leurs parents aussi. Plusieurs semaines d'enquêtes pilotées par une dizaine de professionnels du monde du livre. L'un des axes, l'éveil à la lecture dès le plus jeune âge. Léo Campagne-Lavoine dirige l'association L'Agence Quand les livres relient, un réseau de structures qui œuvre en faveur de la lecture chez les plus jeunes. Elle salue la prise en compte de ce public.
C'est la première fois que quand on parle de la jeunesse, on parle de la jeunesse à partir des bébés. Souvent, la lecture arrivait à partir de 3-4 ans, l'entrée en maternelle. Et là, pour moi, c'est assez inédit, effectivement, de considérer que la lecture, ça peut être dès les premiers temps de la vie. Ce que je partage comme constat avec les associations de notre réseau, c'est que les besoins sont immenses. Il y a beaucoup d'enfants encore et beaucoup de familles à sensibiliser, avec lesquelles il faut partager une bonne littérature, une littérature de jeunesse de qualité.
Une activité cruciale, nous dit-elle, qui peut être déterminante dans la bonne insertion à l'école maternelle et qui enrichit aussi les relations entre les enfants et leurs parents. Pourtant, dans certains territoires, nombre d'associations disent avoir vu ces dernières semaines leurs subventions baisser drastiquement.
Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des moyens plus importants, plus conséquents et plus durables. Les financements sont de courte vue, alors qu'on sait que les actions lecture, pour qu'elles prennent sens, elles doivent être régulières et fréquentes.
Léo Campagne-Lavoine espère que les états généraux permettront d'impulser une hausse de subventions dans ces associations et la mise en place de plus de formations de médiation par le livre pour les tout-petits.
Un compte rendu de Flore Caron. Un mot du temps, une partie de la région Rhône-Alpes, le pourtour méditerranéen et la Corse subissent toujours de fortes chaleurs aujourd'hui, avec 14 départements en vigilance orange canicule. Partout ailleurs, les températures iront cet après-midi de 21 à 30 degrés du nord au sud avec un ciel bien dégagé. 12h45 sur France Culture, la suite des midis. C'est avec vous, Chloé Cambrelin.
Merci Anne-Faux.